5 et 6 juillet à Saint-Enimy,
le festival Bulle de Burle revient.
Organisé par l'association Enimy BD,
plus de 30 auteurs et autrices seront présents pour des séances de dédicaces.
À cette occasion, Radio Bartas prend le direct tout au long du week-end.
Pour des plateaux et des rencontres autour du micro.
La 18e édition du festival Bulle de Burle,
c'est bien sur le 107FM.
Et sur radiobartas.net.
Et oui, on est toujours en direct du festival Bulle de Burle à Saint-Enimy. Nous a rejoint au micro Alcoutelis, bonjour. Oula, 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 c'est le matin pour tout le monde, je vais monter votre micro. Bonjour.
Bonjour.
C'est mieux comme ça, quand ça marche, c'est dimanche matin pour tout le monde. Prix légende quand même pour l'ensemble de ta carrière,
ouais.
Félicitations. Ça fait...
c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est vieux. C'est ce genre d'hommage. Quasi-posthume.
Oh non, je suis sûr qu'il te reste encore de nombreuses...
Je l'espère aussi.
Pour t'interviewer ce matin, Mathéo est avec nous. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, merci.
Alors, c'est ta première interview. Pareil, on y va tranquille. Je suis là, t'inquiète pas. Bienveillance, évidemment. On t'écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Combien de temps avez-vous pris pour faire cette œuvre ?
Oula !
Alors, l'ensemble de votre œuvre.
L'ensemble, bah c'est marrant, c'est une question à laquelle je réponds souvent. Moi, mes premiers dessins professionnels, donc payés, c'est 1967. Ce qui ne nous rajeunit pas. Hein. J'étais très jeune déjà à l'époque. J'avais 18 ans. Alors ça vous laisse calculer un peu l'âge quasi-canonique que j'ai là.
Quelle est votre évolution au fil des années ?
Mon évolution, c'est... Alors je vais répondre d'une manière assez précise, c'est ça a aiguisé ma curiosité. Quand j'ai commencé donc vraiment en professionnel en 1971, juste après mon service militaire, j'avais des convictions et des certitudes. Et en fréquentant les grandes signatures, les grands dessinateurs, les grands auteurs, et non des moindres, hein, des gens comme Moebius, comme Goscinny, comme Uderzo, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre. Et la curiosité est venue de là, la curiosité d'aller voir ce qu'ils faisaient, de les interroger, de comprendre comment ils travaillaient. Par exemple, moi j'ai eu la chance de rencontrer ce qu'on appelait la Légion espagnole à Paris. C'était des réfugiés du franquisme qui vivaient à Paris, et parmi eux il y avait d'immenses dessinateurs, Ribera, Parras, Victor de la Fuente, et je les ai beaucoup regardés travailler, et la curiosité aidant, je me suis inspiré de leur technique, et surtout ils avaient la gentillesse de répondre à mes questions. Quand je leur disais mais comment tu fais ça, ils prenaient le temps de m'expliquer. C'est pour ça que depuis maintenant que je suis un peu chez les seniors, mais les jeunes seniors, hein, vous déconnez non plus, quand on vient me demander non pas un conseil mais un avis sur quelque chose, je prends le temps de répondre, parce que c'est une dette que je paye à travers une réponse aux gens qui m'ont répondu il y a 50 ou 55 ans.
Pourquoi avez-vous commencé à dessiner ?
Pourquoi j'ai commencé à dessiner ? Il y a deux catégories d'enfants. Tous les enfants dessinent, mais il y a une première catégorie qui arrête parce qu'elle commence à acquérir un esprit critique. Puis il y a ceux, dont je fais partie, qui continuent parce qu'ils ont envie de dessiner et se disent que le dessin est un formidable vecteur pour raconter des choses. Et la bande dessinée, effectivement, qui se situe à la rencontre de la littérature et du dessin et de l'image, est un formidable vecteur, à condition qu'on l'utilise pour ce qu'elle sait faire. Ce qu'elle sait faire, la bande dessinée, c'est raccourcir les propos, voire les simplifier, voire aller jusqu'au simplisme pour pouvoir raconter quelque chose. En cela, ça se rapproche beaucoup plus du théâtre que du cinéma.
C'est tout.
Alors tu peux dire merci. Ouais.
Merci.
Merci, mais de rien. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Hein, la preuve.
Alors bah, moi, j'en ai justement vas-y. Encore quelques-unes.
Ouais, je t'en prie.
Voilà, t'as repris la série il y a quelques années. Enfin, je ne sais pas si tu continues, je ne pense pas. Tanguy et la Verdure.
Non, je ne la continue pas.
Et tu l'as reprise parce que Uderzo en avait marre. Comment ça s'est passé?
Non, en fait ça s'est passé très simplement. J'avais été contacté dans des circonstances un peu fumeuses par un agent publicitaire qui voulait me faire faire un album de publicité. Et je leur ai envoyé balader en temps normal, mais il m'a dit ce serait Jean-Michel Charlier qui ferait le scénario. Alors évidemment, Jean-Michel Charlier, que j'avais croisé à Pilote quand j'y allais rue du Louvre, j'avais 13, 14, 15 ans. Lui s'en souvenait pas, mais moi je m'en souvenais. C'est là où j'ai rencontré Goscinny, qui lui se souvenait de moi. C'est assez marrant plus tard. Et quand le gars me dit le scénario serait Jean-Michel Charlier, là je dis on peut essayer de faire quelque chose. Je rencontre Charlier, c'est un Belge ouvert, joyeux, bon vivant. Et je lui dis, avec lui on va peut-être pouvoir faire quelque chose de bien. Et l'album publicitaire. C'était un privé et ça se passait à San Francisco. Alors je dis, mais à San Francisco, il y a une grande communauté chinoise, on pourrait s'amuser avec tous les poncifs, tous les clichés sur les Chinois. Alors Charlie, il n'avait pas besoin de grand-chose pour se mettre en route. Hein. Dès que ça déconnait, lui, il était le premier. Et c'est comme ça que j'ai fait un album avec lui, et c'était le privé. Qui va être réédité d'ailleurs, qui a été réédité chez Casterman. Ils m'ont rendu les droits parce que ça les intéressait plus, et je peux le comprendre. Mais ça va être réédité par une petite boîte qui fait du très très bon travail. Et je vais peut-être reprendre certaines choses dedans, parce que c'est quand même un monument de bêtises, quand même, cet album. C'est bien dessiné, mais c'est quand même très con.
Je m'étonne.
On s'est bien marré avec Charlie. Bah, vraiment, on s'est bien marré. Et c'est là, pour répondre à ta question...
Ouais, voilà, j'allais y revenir.
T'as raison. C'est là qu'il me dit, bon, écoute, j'ai des problèmes avec Patrice Serre, qui n'arrive pas à s'en sortir sur Tanguy. Est-ce que ça te dirait de... Tu penses que... Tanguy, c'est ce que je lisais enfant dans Pilote, dans les tout premiers numéros de Pilote, en grand format. Et le dessin du Uderzo, c'était du cinémascope pour moi.
C'est clair. Hein.
Et s'il y a quelques dessinateurs qui m'ont donné envie de dessiner, c'est Jigé, pour l'extraordinaire maîtrise de la nature, et Uderzo pour son extraordinaire professionnalisme. Quoi. Chez Uderzo, il n'y avait jamais un trait qui dépassait. Et je lisais ça enfant, et que Charlie me dise est-ce que ça te plairait de faire une reprise. Oui, ça a été. Et là, Charlie a commencé à être pas très bien, d'ailleurs il est mort 2-3 ans après. Hein. Et il donnait quand même plus de priorité aux reportages et aux enquêtes, qui vraiment l'occupaient beaucoup, et il le faisait très bien, qu'au scénario. Alors ça a pris du temps, quoi. Ça a pris du temps, mais enfin. L'album est très bien. Il a été salué par des spécialistes de l'aviation comme étant l'un des meilleurs. Et Uderzo, que j'ai eu la chance de bien connaître et d'avoir été son ami, m'a dit c'est l'un des meilleurs. Bon, ça vaut une légion d'honneur.
C'est clair. Quand Uderzo fait ce genre de compliments, quand même, là, on se dit bon.
C'est d'ailleurs par pur comment dirais-je? Orgueil que je le répète là, parce que quand Uderzo, qui est un homme d'un immense talent, dit ça, c'est à prendre, quoi. C'est gratifiant. Quoi.
Ça vaut bien le prix des gens d'un Saint-Denis en fait. Non.
Ça dépend. Même...
Oui, froissons pas les organisateurs du festival.
Ça dépend. Non, alors je veux bien en parler du prix des légendes, c'est. D'abord, je m'y attendais pas. Alors là, ils m'ont cueilli, les enfoirés. J'avais même plus quoi dire. Deuxièmement, ça me fait très plaisir parce que j'adore venir à Saint-Enimi. C'est un petit festival comme je les aime. C'est-à-dire, on y est à l'aise, on n'est pas pressé, on n'est pas bousculé. Les gens, ils sont sympathiques, accueillants. Tout se passe bien. Non, mais je reviendrai.
Avec plaisir.
Être une légende maintenant, ça oblige.
C'est clair. Bon, on a bien compris que tu avais fait énormément de rencontres et que de rencontres, que de belles rencontres. Mais est-ce que tu as dû te former à un moment dans ton parcours, ou alors est-ce que tu as tout appris sur le tas, comme on dit ?
J'ai appris sur le tas parce que, comme je disais tout à l'heure, tous les enfants dessinent, mais il y en a qui continuent. Et en étant rentré à Pilote en 71, j'ai vu la différence qu'il y avait entre mon travail et celui des vrais professionnels. Et là, je me suis dit, mon petit gars, faut travailler. Et c'est là où j'ai commencé une grosse carrière de dessinateur de presse, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de magazines qui prenaient du dessin, et ça me permettait de faire mes classes. Et devenir un vrai dessinateur, quoi. Et après, bon, c'était quand même la bande dessinée qui m'intéressait le plus. Et j'ai eu surtout la chance, dans la fin des années 70, début des années 80, de rencontrer un très grand scénariste qui s'appelait Jacques Loeb, qui est mort jeune, malheureusement, une saloperie. Et qui m'a dit, bah voilà, là je prépare un magazine qui s'appelle Chic, ça te dirait de dessiner, je voudrais que tu fasses quelque chose avec Rodolphe. Et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Rodolphe, qui est un très grand scénariste, qui est pas de la trempe des Charliers, mais qui est quelqu'un d'immensément cultivé. Et avec lui, donc, depuis une quarantaine d'années, on fait pas mal de choses. Mais j'ai fait énormément de dessins de presse, qui est, à l'époque, hein, parce qu'il y avait beaucoup de magazines qui prenaient du dessin, qui a été une grande école de formation, en tout cas pour moi. Hein.
Rodolphe, hein, qui a bossé sur Sprague, hein, avec Olivier Roman, si je ne m'abuse, et qui a eu le prix de la nouveauté pour le deuxième tome. T'as écrit une bande dessinée qui s'appelle Les Forçats du Tour de France.
Ah. Alors là c'est une cruauté, ça.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Bah c'est très simple. Il se trouve que je pratique pas mal le vélo, même que j'ai été champion de France des vieux. Et j'ai rencontré, entre autres, pas mal de gens du showbiz, dont un type, un grand journaliste qui est devenu un de mes amis presque intimes, qui s'appelle Gérard Rolls. Et à un moment donné, il faisait une émission, il préparait des émissions sur le vélo, et il lui manquait des images d'époque. Et ces images-là, je les ai reconstituées. Et à cette occasion, j'ai fait la connaissance de Jean-Paul Rey, qui était journaliste et qui écrivait justement pour ces émissions-là. Et je lui dis, ces dessins, faut pas les laisser tomber. J'y ai mis vraiment beaucoup de moi-même. On pourrait les réutiliser. Et il m'a proposé, si tu veux, je fais des textes avec et on les publiera. Et ça a donné nous Forçats du Tour de France. Et c'est ce que je considère comme l'un de mes meilleurs albums, parce que c'est l'un des plus authentiques. Il n'y a pas de camouflage dans cet album. C'est les textes sont magnifiques, sont vraiment très très bien écrits, et les dessins sont sincères, avec leurs qualités, leurs défauts, mais ils sont très sincères. Parce que j'avais pas la pression d'une narration comme on peut l'avoir pour une bande dessinée, quoi.
Tu le suis, là, le Tour de France? Il vient de partir, là.
J'ai appris qu'il y a eu une chute hier. Non, hier, je n'ai pas regardé l'étape. Aujourd'hui, j'espère que je vais trouver une petite télé pour la regarder, parce que ça devient frustrant. Mais bon, oui, bien évidemment, je suis le Tour de France. Et j'ai eu la chance, grâce justement aux gens que j'ai rencontrés, de suivre des étapes dans les voitures au cul du peloton.
C'est impressionnant.
Ah ouais, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Et une des premières étapes que j'ai pu suivre, c'était Embrun, l'Alpe d'Huez. Et au pied de l'Alpe d'Huez, je peux le citer parce que c'est tout à fait honorable, j'ai vu Mario Hertz, qui avait fait son travail d'équipier, mais livide. Et il avait encore 21 virages à passer. Et l'Alpe d'Huez, je l'ai grimpé, je peux dire que ça monte. Hein. Et j'avais qu'une envie, c'est de descendre de voiture et de le pousser, le pauvre. Il était blanc, mais il avait tout donné pour son leader. Et il a fini l'étape, quand même. Il a fini l'étape, quoi.
Ah, c'est un truc de fou. Ouais.
Ah, c'est un truc de fou, quoi. Et grâce, justement, à Gérard Rolls et à d'autres, comme Jean Réveillon et d'autres, j'ai pu suivre des étapes du Tour, mais vraiment au cul des coureurs. Et là, on voit ce que c'est. Hein. Je veux dire, ça rigole pas. Hein. C'est les athlètes. Les gars, ils font 200 km à 50 de moyenne. Ils arrivent, ils sont rincés. Et le lendemain, ils recommencent. Quoi. C'est un sport de dingue. Et pour en terminer avec le vélo, parce que moi, je suis un sportif frustré, parce que j'ai pas pu être le grand champion que j'aurais aimé être. Le vélo, c'est peut-être... C'est pas le sport le plus dur, c'est l'un des plus durs, mais je crois que c'est peut-être le sport le plus cruel qui soit. parce que quand on n'a plus les jambes, il faut finir. Et là, c'est l'enfer, quoi. Je sais pas, au tennis, on lève la main, on s'arrête, on va au vestiaire. En foot, on s'arrête, on est remplacé. Là, non, il faut finir, quoi.
Quoi qu'il arrive,
il faut finir, sinon tu repars pas le lendemain. T'es éliminé, quoi.
Ouais, c'est pour ça que c'est super impressionnant. Suspense cette année, Pogacar ou Vingegaard? Ou alors Primoz Roglic, pourquoi pas?
J'aimerais bien qu'il soit un peu plus ouvert, mais malheureusement, je crains que Pogacar, il les bouffe tous, parce que quand on a vu ses échappées à 100 km de l'arrivée dans la Strade Bianche, par exemple, je veux dire, il y a peu de gars capables de faire ça. Mais un gars comme Evenepoel, ça me ferait plaisir qu'il le gagne, il est sympa. Ou Vingegaard même, pourquoi pas, ou un autre.
Ouais, ou que les quatre, ils se battent un peu et qu'il y ait vraiment plus de suspense.
À un moment donné, j'ai espéré en Alaphilippe, mais il est trop limité en montagne, malheureusement. C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un très très bon coureur.
Quoi. Alors, il est revenu sur le tour cette année, puisqu'il a été invité avec son équipe. Espérons. Il a dit dans une interview que les 10 premiers jours du tour, c'était pour son profil. Donc, espérons qu'il gagne, une dernière étape.
Il y a 6 jours de montagne, va exploser. Quoi. Mais quoi, on ne sait jamais. Hein, les circonstances de course font que. C'est une sublime improvisation. Une course cycliste, c'est une sublime improvisation parce que il y a des éléments qui échappent d'un coup. Et souviens-toi de la victoire de Thévenet dans Pralou.
Ah ouais, non, ça fait.
Merckx était. Il a pété Merckx, comme on dit. Pardon. Il a pété. Ouais. Et là, t'as Geminiani qui souffle à Thévenet. Vas-y, il est cuit. Et c'est comme ça que Thévenet a gagné le tour 75. Quoi. C'est les circonstances de course, mais dans tous les c'est valable pour tous les autres sports. C'est une inconnue, voilà. Il faut savoir improviser.
C'est clair. Enfin,
si je peux me permettre de faire le cuistre.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de parler de vélo là.
Ouais,
c'est agréable comme ça.
Ah, mais je peux pas de rugby, si tu veux.
Alors le rugby, Toulouse, hein, évidemment, troisième fois. Et puis, mais Bordeaux-Bègles qui a fait une belle saison aussi, puisque champion d'Europe.
Ouais,
c'était assez intéressant.
Ouais, le sport, c'est. Comment dirais-je? C'est une espèce de tragédie heureuse. Voilà, bon, bah merci de m'avoir invité. Je reviens quand tu veux.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi. À toi, Al Koutelis, qui a reçu le prix Légende ici au Festival de Bande Dessinée pour l'ensemble de sa carrière. Et merci beaucoup à toi, Mathéo.
Merci.
C'était super. C'était une première, hein, c'est de l'expérience. Hein. Merci, au revoir. On reste au Festival Bulle de Bulle, on est tranquille, on fait une grosse pause musicale puisque le dernier prix, le prix jeunesse Ferid Zerriou, va nous rejoindre. Ce sera vers midi. En attendant, on écoute plein de musique. Vous êtes bien sur Radio Bartas, restez-y, on n'y est pas trop mal. À tout à l'heure.